7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, maman solo, les oubliés des pouvoirs publics. Grand point d'interrogation, c'est le titre de votre livre, Nathalie Bourus. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Nathalie Bourus, vous êtes journaliste, vous avez été grand reporter pour France Info, vous êtes chroniqueuse, vous êtes devenue, bien malgré vous, la porte-parole de centaines de milliers de femmes. Les familles monoparentales représentent 30% des foyers français. C'est une vie en apnée, sans oxygène que vous décrivez, quand il faut tout assumer, enfants, travail, logement, courir après une pension alimentaire. Après une séparation, les femmes perdent près de 30% de pouvoir d'achat, selon l'INSEE, l'Institut National de la Statistique. Je dis les femmes parce que 82% des familles monoparentales ont à leur tête une femme. Premier facteur de pauvreté aussi en France, ces familles monoparentales. C'est une situation à la fois extrêmement banale, faite d'exclusion sociale, dans une société qui se dit « mais qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là ?» Nathalie Bourus, votre livre est un torrent de colère qui prend aux tripes et qui a le mérite de replacer le débat au milieu de nous tous et de notre responsabilité de citoyen. Au-delà du cercle familial, les mères célibataires font rarement l'objet d'une quelconque solidarité, certes, parfois on les écoute au mieux, mais ça va pas plus loin. Et c'est bien ça le problème. Vous formulez des propositions concrètes pour améliorer leur situation. Il faut bien comprendre que aucun pays aujourd'hui n'a intérêt à laisser autant de femmes au bord de la route. Encore faut-il que les acteurs politiques en soient conscients. Et quant à vous, les voisines, si vous écoutez cette émission en direct, je sais que vous êtes débordées, que vous avez rarement le temps de téléphoner dans l'émission, contrairement aux voisins. Mais cette fois, ne laissez pas les hommes parler à votre place. Appelez-nous, surtout dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission. Si vous élevez seul vos enfants et que vous êtes confronté à mille et un problèmes que la société ignore totalement d'ailleurs, appelez-nous sur notre WhatsApp, c'est gratuit, c'est anonyme, 33 7 64 45 51 41. Je vous rappelle le numéro, 33 7 64 45 51 41. Des messages qui nous sont parvenus assez nombreux sur nos réseaux sociaux. Nathalie Bourus, vous pouvez évidemment commenter. Proté est à Nairobi, au Kenya. Les mamans célibataires sont la honte des familles. Elles n'ont pas de place dans la société. Freddy, lui, est à Goma, à l'est de la RDC. Les gens pensent qu'elles se prostituent en secret pour couvrir les besoins de leur famille. Il y a Komla aussi qui est à Vogan, dans le sud-est du Togo. Chez nous, les mamans solo sont considérées comme des sorcières, surtout quand leur mari est décédé d'une mort tragique. Elles sont aussi traitées de vagabondes. Il arrive qu'elles ne bénéficient pas des biens de leur mari décédé, sous prétexte que ces biens appartiennent à la famille paternelle. Elles sont aussi souvent jugées comme responsables de la mort de leur mari. Elles doivent alors subvenir seules aux besoins de leurs enfants. Sur le continent, effectivement, le statut de mère célibataire englobe beaucoup de choses, beaucoup de réalités, notamment celles des veuves. Vous nous appelez, vous pouvez laisser aussi des messages sur notre WhatsApp, mais l'émission est commencée, il vaut mieux nous appeler directement maintenant. 33 7 64 45 51 41. Écoutez aussi ces messages.
Bonjour l'équipe de 7 milliards de voisins. Dans ma société, les mères célibataires sont mal vues. C'est un dur combat de mener une vie de mère célibataire. Étant moi-même du lot, c'est pas du tout facile de mener une vie tranquille, car les regards et les raisonnements de mon entourage me plongent dans des inquiétudes extrêmes. Je ne me décourage pas pour autant, car mes filles ont énormément besoin de moi. C'est pourquoi, avec beaucoup de courage et beaucoup d'amour que j'ai pour mes enfants, j'avance avec joie, la tête haute, avec détermination de réussir à bien m'occuper entièrement d'eux. J'ai une question qui me tourmente à chaque fois. Comment vivre ma vie sans s'occuper de ce que les gens pensent, qui me plonge souvent dans le stress?
Oui, ça c'est Aniv hein, qui a posté cette question à Lubumbashi dans le sud de la République démocratique du Congo. Nathalie Bourus, elle est pleine de courage Aniv, mais quand même elle se demande comment faire pour ne pas se préoccuper du regard des autres. C'est une question qui taraude toutes les mères célibataires.
C'est plus qu'une question qui taraude, c'est je dois vous dire que depuis que j'ai sorti, que mon livre est sorti, je reçois chaque jour des torrents de messages de mères, de femmes et d'hommes aussi parfois. C'est d'ailleurs, je ne sais même pas ce que je vais en faire de tous ces messages. J'ai l'impression de faire le boulot des institutions un petit peu, parce que je réponds. Il y a une mère qui m'a appelé sur mon fixe à mon boulot à France Info quand même. Donc ça va loin. On sent le besoin, le cri. Et le besoin de secours, d'être secouru. C'est très intéressant le témoignage qu'on vient d'entendre, au-delà d'être touchant, parce que le dénominateur commun, je crois que c'est vraiment inter-âge, inter-région, inter-classe sociale, inter-pays, inter-continent, c'est nous sommes les femmes cachées.
Oui. Et vraiment avec des questions, et parfois avec des questions extrêmement simples, comme des questions, il y a des situations très complexes, mais des situations effroyablement simples, je dirais. Écoutez la question, le témoignage de Marie, elle est à Port-au-Prince en Haïti.
Bonjour, je suis Marie, j'écoute depuis Port-au-Prince, Haïti. Je suis mère célibataire, j'ai un garçon de 14 ans. Au début, c'était un enfant très sage, très ambitieux, soucieux de son école. Il travaillait très très bien. Depuis qu'il est arrivé au secondaire, tout a changé. Il se rebelle de plus en plus. Il ne m'écoute pas. Il ne travaille pas trop bien. Je ne cesse de lui parler, lui demander ce qui ne va pas bien. À chaque fois que je lui parle, je lui ai dit de ne pas faire quelque chose. Il me dit toujours, d'accord maman, ça ne va pas se répéter, mais il le fait pour la plus belle. Donc, je ne sais pas quoi faire.
Je ne sais pas quoi faire. C'est la double peine, une solitude encore plus grande pour ces mamans.
On est très très seul face à ses enfants. C'est-à-dire que, et c'est ce que je raconte dans le livre, on vit un face-à-face. Même quand on est quelqu'un de bien né comme moi, qui a un métier, qui a un toit, qui vit dans un pays ultra développé, la France, qui vit même dans la capitale française, on perd vraiment pied. Je raconte mon effondrement dans le livre. Effondrement.
Et hospitalisation.
Face à face. Je suis allée, je me suis retrouvée à l'hôpital à un moment donné, effectivement, et d'ailleurs j'ai trouvé un mur devant moi. Parce qu'il n'y a
d'incompréhension.
Les institutions ne sont
d'incompréhension
ne sont...
parce que votre situation sous-entendue n'est pas suffisamment dramatique pour être comprise. Être seule avec son enfant 24 heures sur 24.
Déni. Exactement.
Alors tout de suite,
en fait, il faudrait, des mères se demandent, est-ce qu'il faudrait pas que j'arrive avec la gueule défoncée, excusez-moi du mot, ou un œil au beurre noir tous les matins au boulot pour qu'on me croie ou qu'on voilà. Il se trouve que moi, je ne suis pas une femme battue, mon enfant n'est pas un enfant violenté, donc qu'est-ce qui se passe? On passe à la trappe, on s'en occupe pas, on laisse tomber, on doit se débrouiller seul et bon an, mal an, non, ça peut pas durer comme ça, ça n'est pas possible.
La concurrence.
Cette mère, là, ce qu'elle raconte, c'est le face-à-face avec son fils qui a 14 ans. Quand les enfants grandissent, les gros problèmes arrivent. Et les problèmes de violence ne sont jamais abordés. Je suis passée devant un JAF, juge aux affaires familiales, deux fois. On n'a à aucun moment employé le mot violence psychologique. Est-ce qu'on n'a pas abordé la question, je dirais, sereinement et sainement, est-ce qu'il y a un souci vis-à-vis de votre enfant, avec votre enfant, ou etc.
Peut-être aussi parce que justement les femmes ne témoignent pas tout à fait de la réalité de ce qu'elles vivent. Et votre livre Maman Solo est un livre très très trash, très violent, très plein de colère. Je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de Marina, qui est maman de Gabriel, 7 ans. Cette mère célibataire est séparée du père de sa fille depuis plus de 6 ans. Donc elle gère seule l'éducation, les courses, l'entretien de la maison, les trajets à l'école, le bain, le coucher. C'est donc une vie de maman solo dont elle s'est justement inspirée pour créer sa start-up Nous, une plateforme d'experts en ligne pour accompagner les parents seuls sur tous les sujets de la monoparentalité. Et Raphaël Constant a passé la soirée chez elle en banlieue parisienne. Reportage.
Hop, qu'est-ce que je te fais ce soir à manger?
Une boîte de conserve.
Une boîte de conserve. Alors, je tiens à préciser que je cuisine quand même de temps en temps.
Alors, il est 19h, on vient tout juste de rentrer de l'école. C'est vrai que j'ai fait le choix un peu assumé de laisser Gabriel à la garderie, à l'étude plus exactement, comme ça, quand je vais la chercher. Les devoirs sont déjà faits. C'est vrai que j'ai des grosses journées de travail et moi, ça me permet de travailler jusqu'à 18h45. Quand on est parent solo et qu'on n'a pas de relais de garde, moi, j'ai toujours privilégié le délai maximum pour aller la chercher parce que j'avais pas d'autre choix et pas les moyens pour prendre une nounou. Donc, effectivement, Gabriel est habitué à ce rythme-là.
On descend à la cuisine.
Je te laisse préparer. Je te fais un peu de semoule avec.
Ouais.
Ouais. Bon bah du coup on va attendre que ça chauffe. Gabriel, montre-moi si j'ai des choses à signer.
Comment ça se passe les repas le soir avec maman Gabrielle en tête à tête?
Bah c'est plutôt pas mal et parce que je me sens bien avec elle.
Oh. Et on a une petite règle aussi le soir. C'est que Gabrielle a le droit à une soirée de télévision. C'est elle qui choisit sa soirée. Elle est très à l'aise avec ça et du coup les autres soirs soit on fait un mandala pendant qu'on mange ou voilà, ou on parle, ou on fait une activité assez calme en général. Et justement c'est des temps privilégiés qu'on passe ensemble parce que quand on est seul avec son enfant, on est souvent à faire les tâches ménagères, tout ce relais qu'on n'a pas finalement, c'est du temps qu'on passe en moins avec son enfant. Je déconnecte jamais mon cerveau parce que le fait de devoir penser à tout en permanence, ça peut être d'un point de vue de l'organisation, l'école, la précarité financière aussi, de savoir mince comment je vais faire pour payer telle chose. Le fait de monter un projet, j'ai pas la sécurité du salaire tous les mois.
Parce que du coup aujourd'hui vous êtes au chômage, ouais, faire démarrer votre start-up.
C'est ça, en tant que créateur d'entreprise, et donc j'ai perdu énormément sur mon salaire, 1000 euros net. Et quand on est parent solo, le loyer ne baisse pas, le reste ne baisse pas. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué. Quand on est parent solo, on n'a pas le choix de cette charge mentale. Et on se découvre une force peut-être et qu'on apprend à développer parce qu'on n'a pas le choix finalement. Mon cœur, il va falloir aller prendre la douche.
Ok, maman d'amour.
Mais ça n'empêche pas de bien se tenir, mon cœur.
Et au quotidien, vous faites beaucoup de choses toutes les deux?
Oui. C'est vrai que souvent, Gabriel me dit « Mais maman, j'aimerais bien être un peu avec d'autres enfants » parce que Gabriel est fille unique. Parfois, j'aimerais aussi avoir d'autres adultes un peu avec qui échanger. On le ressent un peu toutes les deux. On a l'impression vraiment de tout le temps tout faire ensemble parce que moi, j'ai que 30 ans. Mes amis n'ont pas d'enfants, donc c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que quand on a un rythme à 2000 à l'heure, on n'a pas le temps de s'intégrer ou de rester un peu plus longtemps le matin ou le soir à l'école. Et c'est vrai que du coup, l'isolement, on peut le sentir davantage.
Vous sentez qu'il y a une sorte même presque de rejet de la part des autres mamans à l'école, des autres parents?
C'est vrai qu'on est peut-être moins facilement intégré parce qu'on est une femme célibataire avec son enfant. Et en fait, on a peut-être parfois peur d'être stigmatisé comme le parent qui a peut-être loupé une partie de sa vie si on s'est séparé. Et du coup, on se dit « mince, il faut que je donne tout ce que j'ai du coup, dans l'éducation de mon enfant parce que c'est la seule chose qui me reste pour me valoriser auprès des autres et montrer que je suis quelqu'un quand même qui tient la route. » On se met beaucoup la pression, on culpabilise de tout.
Et vous, comment vous avez fait toute seule face à ces questions d'éducation, par exemple?
Parfois, c'est compliqué. On a tellement un schéma en tête de la parentalité, des règles qu'il faut suivre, que quand on se rend compte que les règles qu'on pensait les bonnes ne fonctionnent pas du tout avec son enfant, on est un peu démuni. Et quand on est parent solo, il n'y a pas de confrontation de point de vue en termes d'éducation. Et voilà, c'est vrai qu'avec Gabriel, parfois on a un peu vécu des situations de crise où Gabriel, je la vois me regarder, où Gabriel vivait très mal une frustration Et moi, de mon côté, bah, avec ma représentation de l'autorité, en me disant non, c'est comme ça, il faut pas. Enfin, c'était l'escalade en fait. Et c'est vrai qu'on peut vite tomber là-dedans quand on est parent solo, et je le dis sans tabou, c'est qu'on peut crier peut-être plus rapidement. On ne peut pas dire à l'autre parent, écoute, s'il te plaît, ce soir, je te laisse faire. On a le rôle maternant, le côté câlin, et en même temps, on doit aussi pouvoir poser des limites. Le tout, moi, c'est ce que je dis à Gabriel. On peut se tromper aussi en tant que parent, et je pense qu'il faut être très à l'aise avec ça. Et il faut avoir cette humilité aussi d'en parler à notre enfant et de dire, bah voilà, désolée de ne pas être toujours présente parce que j'ai une journée difficile et que je suis fatiguée. Et voilà, c'est une façon aussi de l'encourager à m'aider. Et du coup, in fine, moi, je peux passer plus de temps avec elle. Hop, on va au lit. Alors, il y a mon associé qui devrait arriver bientôt. Il me rejoint pour travailler une fois que Gabriel sera couché. Voilà.
À 21h.
Il y a une phrase des Shadok qui me fait vachement rire, c'est « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Ben voilà, je crois que c'est le résumé de ma vie. Donc, je n'ai pas le temps de m'ennuyer, du coup.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Les voisines, si vous êtes maman solo, cette émission vous est dédiée. C'est le moment de faire passer des messages sur ce que vous vivez. Appelez-nous sur WhatsApp 33 7 64 45 51. 41. Nathalie Bourus, vous êtes notre invitée, vous êtes maman solo, vous publiez Maman solo, Les oubliés de la République aux éditions Pygmalion, et vous dites dans votre livre, la mère solo porte une charge 3 à 4 fois plus lourde et ingérable que les autres mamans. Vous vous êtes reconnue dans le témoignage de Marina?
Oui, surtout dans cette solitude en fait que tu vis. Et que tu essaies de, personnellement, j'essaie de la combattre. Alors moi, je n'ai pas 30 ans. Malheureusement, je n'ai plus 30 ans. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de copines. Mon fils est un enfant qui est plutôt bien dans ses baskets, qui est assez solaire, donc il est très invité, etc. Bon, malgré cela, on ressent très 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 fortement la solitude et ce rejet, oui, dont elle parle, est tout à fait exact. On est un peu la mère qui a... C'est nous qui avons dû merder quelque part, forcément. Ça peut pas vraiment être le père.
On se demande s'il y a eu un père.
Vous
avez renoncé à aller le chercher à l'école pour ne pas sentir ce regard.
J'en ai eu marre.
Oui.
Ça a correspondu à un moment où mon fils voulait s'autonomiser un peu. Il se trouve que j'ai toujours habité à côté de l'école, donc j'avais cette chance. Donc il a pu y aller à pied. On a fait les trajets ensemble avant pour petits exercices ensemble, etc. Hein, évidemment, mais j'ai pas laissé aller comme ça. Je voulais plus y aller, non. J'avais plus envie de vivre cette façon qui se voyait. D'être différente, car je suis différente, nous sommes différentes. Nous ne sommes pas des mères comme les autres. Et il faut, j'aimerais que ce livre enlève cette culpabilité totalement, moi, que je rejette de tous les pores de ma peau, j'essaye en tout cas. Nous sommes des mamans solo.
Réussir l'éducation de ses enfants, hein, c'est ce dont parle aussi cette maman.
C'est une angoisse permanente.
Ouais, pour vous aussi. Je voudrais vous lire le message d'une directrice d'école.
Je suis inquiète alors que je n'étais pas.
Ouais, ouais. Je rappelle que vous avez couvert énormément de conflits en tant que reporter de guerre, mais vous dites finalement, jamais ça n'a été aussi dur que ce que je vis actuellement en tant que mère solo. Le témoignage d'une directrice d'école au Cameroun, à Douala, qui dit « Les mères célibataires sont perçues comme étant les principales responsables des échecs de leurs enfants. La plupart de ces mères doivent faire face à d'énormes difficultés financières. Beaucoup exercent dans le secteur informel, sur le continent africain, donc sortent très tôt, rentrent très tard. Les enfants sont très souvent délaissés et ça se voit dans leurs résultats scolaires. Dans mon établissement, par exemple, 7 enfants sur 10 en échec scolaire sont issus de foyers monoparentaux. Le problème des mères célibataires a d'énormes répercussions sur les enfants. Cette culpabilité, ce poids potentiel d'un échec potentiel scolaire de votre enfant, c'est quelque chose que vous ressentez éventuellement aussi comme une menace ?
En fait, on est tout le temps derrière et je pense que ça devient complexe pour l'enfant. On est vraiment tout le temps derrière lui aussi, ou elle, ou eux, parce qu'on, on a peur que ça marche pas. C'est là où j'en veux beaucoup aux pères qui peuvent faire quelque chose, ceux qui peuvent. Je mets un petit peu à part les mères qui ont décidé, en fait, par choix, de faire un enfant seul. Moi, je parle vraiment des gens qui ont vécu ensemble, qui se sont séparés. La séparation, c'est pas forcément très bien passé. Alors, soit le père vit loin, soit le père, il y a des pères qui sont en prison, il y a des pères qui sont malades, il y a des pères qui sont handicapés. Bon, ceux-là ne peuvent pas être en garde alternée, par exemple. Et puis, il y a une masse de pères, une grosse masse de pères, qui, parce qu'ils refont leur vie, parce qu'ils ont besoin de prendre du champ, parce que ils peuvent encore procréer, donc ils vont le faire, ont besoin justement de prendre ce champ, c'est ce qu'ils disent.
Et donc, ils refusent la garde alternée.
Ils abandonnent leurs enfants.
C'est ça.
Ils refusent la garde alternée parce que c'est pas arrangeant pour eux. Donc, le juge va dire, je ne peux pas forcer un père, un homme, à s'occuper de son enfant, ce qui sur le papier est raisonnable et vrai. On ne peut pas forcer quelqu'un à s'occuper d'un enfant. Sauf que si, je pense qu'à un moment, le JAF doit être un petit peu plus d'actualité d'aujourd'hui et pousser ce père à prendre ses responsabilités. Déjà, le lui dire, lorsque moi je me suis retrouvée dans le bureau du JAF, du juge, on était tous les deux, et à aucun moment j'ai vu ce juge le regarder le père dans les yeux en lui disant écoutez là ça va pas ou là il faudrait faire davantage ou là par contre moi il m'a bien réprimandé le fait d'avoir tapoté avec mon stylo sur la table parce que j'étais effectivement un peu
tendue
jour-là oui.
Nathalie Bourrusson reçoit beaucoup de messages, un message de Nicole qui arrive sur mon écran. Elle est à Rueil-Malmaison en région parisienne, mère célibataire de 4 enfants, de 4 pères. Ma mère m'a dit qu'elle aurait préféré que je sois une pute. J'étais sous le choc. Je me suis débrouillée pour élever mes 4 enfants seule. J'achetais des livres pour m'aider. Et puis, il y a aussi le témoignage de Fatimata, 4 enfants. Elle est à Nouakchott, en Mauritanie, quand vous disiez que c'est vraiment un problème qui concerne les femmes du monde entier. Elle a quitté son mari pour des violences morales. Je m'en sors seule avec mes 4 enfants. Je me suis battue. Mon premier investissement, c'est l'éducation de mes enfants. Je suis allée devant la loi pour obtenir une pension, puisque la loi existe en Mauritanie, mais j'ai eu le minimum. Les femmes préfèrent continuer à souffrir plutôt que de divorcer pour ne pas se retrouver seules et sans rien. C'est ça qui est difficile ici. Il faut qu'on parle, Nathalie Bourrus, des pensions alimentaires. Parce qu'en France, lors d'un divorce ou une séparation, les mères perdent 30% de pouvoir d'achat selon l'INSEE. Pour les pères, c'est beaucoup, beaucoup moins.
C'est beaucoup moins. Et d'ailleurs, il y avait eu une enquête qui disait que un an ou deux ans après leur séparation, ils regagnaient du pouvoir d'achat, ces pères. Donc, je ne nie pas le fait que des pères puissent avoir des difficultés financières, pas du tout. Le problème, c'est que si par exemple, vous décidez d'aller devant un juge, on vous demande la feuille d'imposition, mais il n'y a pas que la feuille d'imposition dans la vie. Toute la vie n'est pas dans une feuille d'imposition. Quand un père, par exemple, ce que me racontait une mère, rachète une maison derrière ou investit dans sa nouvelle vie, ça veut dire qu'il a quand même des moyens, même s'il n'est pas richissime. On n'est pas là pour étrangler un père financièrement. Il signifie quelque chose quand il commet cet acte. Ce n'est pas marqué sur la fiche d'imposition, pas forcément. Donc ça passe à la trappe. Des tas de choses comme ça passent à l'as. Quand vous voyez, parce que vous devez déclarer un petit peu quels sont vos achats, même en nourriture par exemple, donc le père, la mère le font. Quand vous voyez qu'il y a par exemple, je sais pas, 800 euros par mois de nourriture du côté du père qui a refait sa vie et qui a peut-être qu'un enfant en plus ou pas d'autre même. C'est énorme. Ça fait pas tilter le juge.
Les pensions en moyenne, c'est moins de 200 euros par enfant. Hein,
là, je vous parlais de la façon d'évaluer les pensions, oui, qui est déjà. Oui. Je trouve vraiment il y a un souci. Il n'y a pas d'enquête, il y a aucune enquête de fait derrière. Si par exemple vous dites à l'audience, une audience qui est très très rapide, mais bon, faut essayer de parler. Moi, je le conseille au maire un maximum pendant l'audience. Si vous dites, moi, je pense que le père de mon enfant ou mes enfants a de l'argent ailleurs, etc. il... Ah, vous avez les preuves? Non, je n'ai pas les preuves. Je n'ai pas les moyens d'aller dans un autre pays chercher l'argent de voilà. Mais est-ce que vous allez vous... Il se passe rien.
Un témoignage dans votre livre aussi, une femme qui dit on fait appel aux huissiers hein, pour essayer de récupérer de la pension.
C'est
la loi.
Aussi.
S'il n'y a pas d'argent sur le compte du père, ça vous coûte 800 euros de frais de
exactement,
justice.
Exactement.
Et donc c'est encore la double peine.
C'est 800 euros.
Le non-paiement de pension est encore très courant en France. Au Canada, il y a beaucoup plus de coercition pour contraindre l'autre parent à payer la pension alimentaire.
Il faut que ce soit coercitif. Il faut absolument que ça devienne coercitif. Et la nouvelle loi en France nous parle de la CAF qui irait récupérer les
la
pensions.
La caisse d'allocation familiale.
Exactement. Je pense qu'il faut que ça passe par le trésor public. Il faut être beaucoup plus sérieux sur cette affaire. Une pension alimentaire, ce n'est pas qu'une affaire d'argent. C'est une affaire psychologique. C'est une affaire... La pension... Quand, par exemple, les parents ne se parlent plus, ce qui est très très courant quand l'histoire s'est mal déroulée et que le père a refait sa vie notamment, la pension, c'est un peu le dernier lien, je dirais, entre les parents pour l'enfant. Je dirais un lien physique, concret.
Symbolique aussi.
Quand ce lien, symbolique aussi. Quand ce lien est coupé, cassé, qu'est-ce qu'il reste ? Si le papa ne téléphone pas aux enfants pendant toute la période, je parle par exemple de papa qui voit les enfants dans le week-end, toute la période où les enfants sont chez la mère, s'il n'appelle jamais, si en plus il ne verse pas la pension, si en plus on ne peut pas le joindre, l'école ne peut pas l'en joindre, où est le lien ?
Alors, il y aurait quand même du chemin à faire parce qu'au Canada, le taux de versement des pensions est de 96%. En France, à peine 60% des cas où la pension est versée. Alors, effectivement, maintenant, depuis 2017, il y a l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires qui va voir maintenant sa mission élargie avec plus de moyens, etc. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un frein dans la société, selon vous, Nathalie Bourus ?
Je pense qu'il y a un frein aussi chez les pères qui, si la séparation n'a pas été très fluide, on va dire, ou pas très bien réglée, n'ont pas envie de donner d'argent à leur ex. Ce qui peut d'ailleurs se comprendre. Il y a quelque chose qui est mal fichu, très mal fichu. Ce que je reproche aux institutions, une fois encore, c'est qu'elles ne s'en sont pas encore rendues compte. Alors, il faut écrire un livre, il faut venir... expliquer au monde entier ce qui se passe. Donc, on a des institutions qui ne savent rien.
Il y a beaucoup d'associations qui disent
aidants.
Quand même
c'est
aujourd'hui...
C'est la journée des aidants, aujourd'hui.
C'est la première source de pauvreté en France, le statut de mère célibataire. Ça, quand même, c'est clair, c'est chiffré depuis longtemps.
Moi, je vois, par exemple, je viens de sortir ce livre, j'ai eu beaucoup d'interviews, mais beaucoup d'interviews faites par des femmes, beaucoup d'interviews dans les magazines et la presse féminine, la presse, je dirais, généraliste, comme votre émission, ne s'est pas tellement emparée du sujet, comme s'il y avait une gêne. Les aidants, par exemple, c'est la journée des aidants aujourd'hui, et on en parle parce qu'il y a eu le Covid. Sinon, ces aidants passaient eux aussi à la trappe. La majorité des aidants sont des mères célibataires. Alors là, c'est double peine. Hein.
Vous restez avec nous, Nathalie Bourus. Dans quelques instants, on va donner la parole à des voisines, mères célibataires ou mamans solo. Comment faire face aux difficultés matérielles, regard des autres ? Il faut que ça change. Et vous nous appelez sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41.
Cuando salí pa Boston, en Boston te encontré. De tus ojitos verdes, niña linda, me enamoré. Y te entregué mis sueños, mi greque, mi café. Y mi guitarra Gibson y una lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies.
Lámpara pa' mis pies.
La luz de tu mirada es.
Lámpara pa' mis pies.
El merenguito de mi fe.
Lámpara pa' mis pies.
Ay, mírate.
Lámpara pa' mis pies.
Y me mudé en tu cuello y con mi polaroid. Yo retrataba el baile de tu besito de algodón. Y revelé tu risa sobre un papel maché. Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies.
Lámpara pa' mis pies.
La luz de tu mirada es.
Lámpara pa' mis pies.
La tan bonita de mi fe.
Lámpara pa' mis pies.
Ay, mírate.
Lámpara pa' mis pies.
Epa. Epa. Te coroné mi reina con tiara de ilusión. Y te compraba flores y menticas para el corazón. Te presenté canciones y preparamos té. Pero yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies.
Lámpara pa' mis pies.
La luz de tu mirada.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, RFI, c'est Juan Luis Guerra de la République Dominicaine. On est en direct et on parle des mamans solo. Comment faire face quand il faut travailler, trouver de quoi nourrir ses enfants, que les pères ne payent pas les pensions alimentaires. On en discute avec vous, Nathalie Bourrus. Vous êtes journaliste à France Info. Vous publiez Maman solo, les oubliés de la République. Et on vous donne la parole au 33 7 64 45 51 41. On est en ligne avec Maëva qui nous appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Maëva.
Bonjour Emmanuel.
Maëva, alors, vous avez un fils de 7 ans que vous avez élevé seul. Hein. Je crois que le papa est parti parce que votre enfant était malade.
Plus ou moins, on va dire ça comme ça. Plusieurs facteurs, mais principalement parce qu'il n'arrivait pas à faire face à ses responsabilités avec un enfant malade.
Oui. Voilà.
Donc on va dire que là, j'appelle ce matin surtout, je parle au nom de toutes les mères célibataires de Côte d'Ivoire. Parce que ce qui m'intéresse le plus là, en fait, c'est les jeunes filles mères célibataires. Donc on parle des filles qui sont mères depuis l'âge de 13 ans jusqu'à la majorité, qui sont carrément oubliées, carrément abandonnées. Et c'est super difficile pour elles. On n'a pas d'appui. J'entendais madame tout à l'heure parler d'allocation familiale. Ce n'est pas des choses dont on bénéficie en étant en Afrique. Et c'est vraiment difficile sur l'éducation des enfants, sur l'éducation des mamans qui sont devenues mamans, qui ne s'attendaient même pas à être mamans, qui sont victimes souvent d'abus. Et c'est vraiment, vraiment compliqué. Mmh.
Les grossesses en milieu scolaire, c'est vraiment un sujet qui est quand même bien documenté en Côte d'Ivoire. On va dire que les pouvoirs publics ne ferment pas les yeux sur ce problème-là. Et effectivement, lorsque ces très jeunes mamans doivent élever leurs enfants, elles font face à un double problème. Il faut continuer de se former pour apprendre un métier. Et ensuite, il faut qu'elles puissent faire garder leurs enfants pour travailler, pour subvenir aux besoins de leurs enfants.
Exactement. Donc, on a des mamans qui ont vraiment envie de sortir la tête de l'eau. Malheureusement, il n'y a aucune institution, je veux dire, il n'y a aucun service qui permet de garder les enfants. Donc, une maman qui touche presque moins de 500 francs CFA en Côte d'Ivoire ne peut pas se faire garder un enfant. Donc, elle se retrouve à vivre dans la précarité extrême et elle n'a personne pour garder son enfant. Donc, aucun moyen de pouvoir entreprendre une activité. Et voilà, on parle de pauvreté vraiment très, très extrême. Mmh. Voilà.
Merci beaucoup de nous avoir appelé Maëva. C'est vrai que même vous, Nathalie Bourrus, excusez le même, hein, mais journaliste avec un salaire régulier, vous dites que c'est la croix et la bannière pour faire garder son enfant, pour pouvoir souffler, pour pouvoir avoir un peu plus de souplesse dans son travail.
Mon chapitre s'appelle Nounouland. Donc à un moment, je peux dire que à peu près la moitié de mon salaire passé en garde
d'enfants,
en budget garde d'enfants. Ouais.
Une maman cadre vous a confié qu'elle préférait dire à son employeur qu'elle était malade plutôt que de dire qu'elle devait garder son fils malade. Pourquoi ?
Absolument. Parce que vous n'êtes plus, comme je le disais tout à l'heure, tout à fait la même, mais que au boulot, dans un premier temps, vous faites semblant d'être la même, pas, surtout si vous avez une carrière intéressante et où vous avez beaucoup sacrifié pour votre carrière, ce qui est mon cas et ce qui est le cas d'autres femmes. Et après, vous ne voulez pas en parler parce que vous sentez que ce sera, vous serez pénalisé.
Oui. Une femme qui ne sait pas s'organiser, qui n'a pas été capable de mettre le père devant ses responsabilités, voilà, toute cette culpabilité-là.
Qui déjà n'a pas pu garder le père, comme si c'était forcément elle qui n'avait pas pu garder le père. Peut-être qu'elle l'a quitté, le père aussi. On n'a pas envisagé ça dans la... Il y a vraiment un problème là-dessus. Chez les employeurs, moi je pense dans les entreprises, chez les employeurs en général, il y a, alors vraiment je pense, soit une méconnaissance, soit un déni total de ce qu'est une mère célibataire et des femmes, dont femme qui me disait de me taire, qui n'osent pas en parler, qui ne veulent pas en parler, qui ont peur vraiment. Et c'est vrai que vous vous mettez en danger une fois que vous en parlez. Moi, j'ai décidé de parler de tout, c'est ce que je lui avais répondu. De mon âge, elle me disait aussi de pas dire son âge, de mon âge et de cette situation. J'ai décidé de ne pas mentir.
Eh ben, vous avez 54 ans aujourd'hui et vous élevez seul votre fils de 7 ans. Restez avec nous, Nathalie Bourrus. On va donner la parole à une voisine qui nous appelle de Cotonou au Bénin, Kémy, 54 ans, qui a élevé 3 enfants. Bonjour Kémy.
Bonjour, je m'appelle Kémy, j'appelle de Cotonou. Et le sujet d'aujourd'hui me touche vraiment parce que tout ce que votre invité a dit est vraiment exact. J'ai 54 ans, comme vous avez bien dit. Et c'est difficile pour moi. Surtout en ce qui concerne financièrement, c'est difficile. je travaille, je gagne pas mal ma vie, mais je n'arrive pas à boucler les fins de mois. Et le regard de la société, on a peur que je pique leur mari. Je suis obligée de quitter des fois là où je travaille pour changer. Mais c'est très, très difficile à porter.
Les femmes ont peur de vous.
Oui, même je n'ai pas besoin de faire, je m'habille, je suis tranquille, j'ai 54 ans. Mais Dieu merci, j'ai toujours l'air un peu beaucoup plus jeune. Et c'est ça qui est le plus difficile pour moi. C'est très, très difficile à gérer.
Merci Kémy de nous avoir appelé. C'était important que vous puissiez aussi nous dire ça, parce que ce regard de la société, vraiment, on le perçoit partout, partout. Je voudrais aussi qu'on entende la parole des enfants devenus adultes. Là, en l'occurrence, c'est un homme qui nous a envoyé ce message. Écoutez-le, c'est Fridolin à Brazzaville.
Je suis l'un des victimes des familles monoparentales. Je le dis parce que aujourd'hui, si je ne suis pas diplômé, c'est parce que j'ai vécu le cas de ce que ma mère prenait la charge de la famille seule, sans parfois l'assistance du père. Le père, lui, il avait beaucoup de femmes, plusieurs épouses, donc il ne pouvait pas vraiment prendre la charge de la famille. Donc ma mère se battait très forte. Elle se voyait que le métier de couturière ne la rapportait pas beaucoup de gains. Donc elle était focalisée sur la vente des beignets au marché, dans un petit marché local de la place. Donc c'est avec ça qu'elle payait les études de ses enfants et finançait les études de mes grandes sœurs et mes grands frères, ainsi que pour moi. De l'examen du BPC que je devais passer avec ma cadette, ma mère ne pouvait plus, elle se retrouvait dans une situation où elle n'avait pas assez de moyens. Donc ma mère me demande, bon, entre vous deux, qui accepterait de céder d'abord la place à l'autre pour que l'année prochaine lui revient passer l'examen. Moi, je me suis dit, bon, il faut donner à la fille parce que moi, j'ai déjà un métier, j'étais déjà élève mécanicien en diesel motors, donc il faut donner à la fille. La fille était tellement trop intelligente, donc je laisse ma place à la fille. Elle est admise, aujourd'hui elle est ingénieure en sciences aériennes, en météorologie. Ma mère avait trouvé que j'avais un bon cœur. Et moi, après, j'ai continué mon métier de mécanicien jusqu'à ce que je suis revenu à l'école. Après, plus tard, je suis devenu chauffeur professionnel. Et c'est ça qui m'a fait revenir vers l'école à l'Institut français du Congo. Et aujourd'hui, je suis devenu collaborateur par correspondance du système des Nations Unies et des organes internationaux World Fast Food. C'est à travers le métier du chauffeur. Ok, portez-vous bien, moi je me porte bien.
On reçoit beaucoup de messages, hein, Nathalie Bourus, d'ex-enfants, d'adultes qui ont grandi avec une mère célibataire, qui veulent témoigner et dire qu'ils s'en sont sortis.
C'est difficile ce message.
Ouais, mais oui. Pascal aussi,
très touchant.
Pascal à Bukavu aussi en RDC, qui a 28 ans, il vit avec sa maman. Il dit, ma mère est célibataire depuis 26 ans. Le combat qu'elle a mené pour nous faire grandir était difficile, y compris jusqu'à aujourd'hui. Elle est mal vue par la société parce qu'elle a refusé de se remarier. On souhaite que ses fils...
Il y a aussi des belles choses.
Oui,
il y a aussi des belles
et que ses fils, évidemment, ne reproduiront pas l'histoire familiale.
Non, il y a des très belles choses. Moi, je sais que je donne beaucoup de force à mon fils et que on apprend aussi à ne pas, on n'est pas des pleurnichards. Là, il faut pousser des cris vers la société, vers les institutions, mais il faut essayer de pas en pousser trop à la maison. C'est compliqué, ça. C'est compliqué, surtout quand on a des fils. Voilà, quand ils grandissent, les fils, ils commencent à faire le bras de fer face à leur mère. Ils font les mecs, voilà. Et ça, il faut essayer de retourner un peu la situation. D'être dans une complicité, et c'est quelque chose d'assez merveilleux, ça. Moi, je vis quelque chose aussi de merveilleux avec mon enfant. Voilà, on est la, comme il dit, la good team. Mais voilà,
la belle équipe.
La belle équipe.
Vous faites
team,
des propositions concrètes, il faut Nathalie Bourus. Quelles sont, à votre avis, les urgences, des choses à réaliser, pas si compliquées que cela dans un pays comme le nôtre, pour aider les mères célibataires?
Alors, je trouve que déjà, par exemple, il existe des cartes de famille nombreuses, pourquoi pas une carte de famille solo, tout simplement pour avoir droit, effectivement, à des réductions, mais aussi pour que ce soit su. Vous avez cette carte qui montre quelque chose, qui le dit, qu'il n'y ait pas de doute sur votre situation, qu'on la mette pas en doute, qu'il n'y ait pas cette espèce de ricanement ou de suspicion.
Il existe en France une allocation de parents isolés, hein, il faut le préciser.
Oui, qu'on touche quand on est, je dirais, vraiment assez dans un très bas salaire.
Oui.
On ne touche rien sinon, rien du tout. Et puis c'est assez dérisoire. Hein. Je pense que ce serait bien aussi que, par exemple, le droit du quand le père voit ses enfants, que ce soit pas seulement un droit de visite, que ce soit un devoir, pour que le père se rende compte qu'il a un vrai devoir, étant donné que le père et la mère ont les mêmes droits et devoirs envers l'enfant. Ces devoirs ne sont pas ôtés lorsqu'on se sépare. Donc il doit absolument les exercer. Ça, je pense que c'est impératif. Je pense aussi que le logement est vraiment, là on n'a pas eu le temps d'en parler, c'est primordial. C'est totalement primordial. Personnellement, j'ai dû vendre mon appart. Hein. J'étais propriétaire à Paris.
Vous n'arriviez plus à payer les traites. Hein.
Non. Je pouvais plus et quand mes copains sont en train d'acheter leur résidence secondaire à 50 ans, moi je vis dans un HLM. Alors je suis pas dans un HLM dégoûtant dans une banlieue atroce, c'est pas ça mon histoire, mais je me suis quand même on s'est déraciné du quartier où on vivait depuis des années où mon fils avait sa vie. J'ai atterri carrément à l'autre bout de Paris, c'est quand même un déracinement. Je l'ai fait. Voilà. On m'a dit, ah ben, si tu prends pas l'appart, tu pourras pas en redemander un autre. C'est pas si simple. Tu vois la chance que tu as.
Pas de passe droit.
C'est une chance.
Pas de passe droit pour les mères célibataires.
Je suis une cadre. Je suis cadre. Donc, pour les logements.
Donc, on imagine ce que c'est pour des femmes qui sont avec des bas salaires et puis.
C'est un désastre pour elles. C'est un désastre. Combien doivent repartir vivre à 40 ans chez leurs parents? Moi, j'ai eu des dizaines de messages là-dessus. Combien se retrouvent dans des HLM? Donc, mères isolées, elles le déclarent. Elles le disent. Avec des bandes autour. Une femme me disait qu'elle était raquettée régulièrement. Elle écrit au bailleur social qui ne lui répond même pas. Il y a vraiment un retard gigantesque. Comme Nathalie, vous me disiez tout à l'heure hors antenne, il y avait beaucoup de retard, je me permets vraiment de dire ça sans faire aucune comparaison, sur les violences physiques faites aux femmes et les viols. On était dans un retard inouï qui est en train d'être un petit peu rattrapé. J'espère que pour les mères célibataires, on va arriver à rétablir cet équilibre. Et j'espère surtout qu'Elisabeth Moreno va me recevoir.
Et que ce sera un sujet moins clivant. Hein. Nathalie Bourus, on termine cette émission avec une note d'espoir. C'est l'histoire d'une taxi woman. Le mot anglais fait plus sérieux que si je disais chauffeuse de taxi. On pourrait peut-être s'imaginer des choses. Mais à Abidjan, les femmes qui conduisent des taxis ne sont pas si nombreuses. Elle aussi d'ailleurs est une mère célibataire, la tête haute. On va la découvrir, ça sera juste après Woman's World. Et bien sûr, je redonne les références de votre livre, Nathalie Bourus, Maman solo, les oubliés de la République, c'est paru chez Pygmalion. This is a woman's world. This is a woman's world. Oh, I know you heard. This is a man's world. A woman's world. Money just don't compare. Far more valuable than a house made of gold. Rareness and beauty, just a few qualities. Stand on your always proud to be strength when I'm weak, baby. Truth is, God knew what he was doing. This is a woman's world. This is a woman's world. Oh, I know you heard. This is a man's world, yeah. This is a woman's world. Eh oui, c'est Woman's World. Bee Gees, a Chicago Kid. Oui, c'est un Américain de Chicago, ça se comprend. Marie-Louise est chauffeuse de taxi. C'est une rareté à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Marie-Louise sillonne la ville de jour comme de nuit. Et elle en est fière. Inès Edel Garcia, notre reporter, était sur le siège du passager avec son micro.
On aurait dû passer par derrière, que là-bas la voie est bien dégagée. les chaises, les raccourcis, les voies moins embouteillées.
Ça fait combien de temps, vous, que vous êtes chauffeuse de taxi?
Ça fait deux ans que je roule le taxi.
Et avant, vous faisiez quoi?
Esthéticienne coiffeuse. J'aime tout ce qui est boulot qui rapporte. Donc, je fais tout.
Et esthéticienne, pourquoi vous avez arrêté?
J'ai pas arrêté, je travaille sur rendez-vous. Je prends les clients, j'ai fermé le salon dès que j'ai eu le travail de taxi, mais je prends les clientes sur rendez-vous.
Donc vous avez deux boulots?
Deux boulots, oui. J'ai deux boulots et je fais aussi les locations-ventes. Je me débrouille. Comme on ne peut pas s'asseoir à Abidjan, donc il faut toujours trouver du boulot à faire.
Vous en aviez déjà vu, vous, des femmes qui conduisaient des taxis avant de devenir chauffeuse de taxi vous-même?
J'ai des collègues, on n'est pas beaucoup en tout cas. Mais c'est moi, je roule beaucoup en plein temps. Les autres, elles se font remplacer, elles ont des jours de repos. Mais moi, par contre, je suis seule sur mon taxi et je roule seule.
Et vous roulez de jour comme de nuit?
Oui, je fais des permanences.
Votre mari, il pense quoi du fait que vous soyez chauffeuse de taxi?
On est en pleine séparation, donc pour le moment, je suis avec mes garçons qui m'apprécient beaucoup et ils me donnent beaucoup le courage. Ils aiment quand leur maman roule le taxi. Je fais ce que mes enfants me demandent.
Ils sont fiers de leur maman?
Très fiers de leur maman. Mais attends, ils n'arrêtent pas de parler à l'école. Et quand les amis voient leur maman dans le taxi, ils sont étonnés à l'école. Bon, pas mes amis, ma famille, d'autres apprécient, d'autres trouvent que c'est difficile. Bon, moi, je vois que ce n'est pas difficile. C'est un travail comme les autres. Mais par contre, mes collègues, il y a d'autres qui me rendent la vie très difficile. Ça dégonfle mes pneus. Ça me dit même qu'ils vont enlever mon moteur. Tout ça parce qu'il y a la concurrence très forte. Hein? Et je ne me laisse pas faire sur le terrain. Hein? Attention.
Vos collègues, ils vous menacent?
Ils me menacent beaucoup. Ils disent que je prends tous les clients. Bon, ça me fait rire parce que je ne prends pas tous les clients. Je travaille comme eux. Mais ils sont étonnés de voir une femme qui lutte le terrain avec eux. Ils se moquent de moi. Ils disent, serre-là, ce taxi, elle roule? J'ai dit, oui, ce taxi, je roule. Et j'en suis fière, très fière de rouler le taxi. Parce que ce n'est pas permis à n'importe qui de rouler le taxi à Abidjan. Et du coup, les femmes, elles ne peuvent pas faire ce travail parce qu'elles se disent que c'est le travail d'homme. Or qu'il n'y a pas de travail typique qui est écrit que ça, c'est le travail des garçons. Non, travail, c'est travail. Les femmes courageuses, on avance avec ça.
Marie-Louise, à Abidjan, chauffeuse de taxi, elle a dû faire face évidemment à la baisse d'activité à cause du Covid et puis maintenant aussi à cause du climat électoral tendu. Mais elle est toujours là, une combattante parmi des millions, Nathalie Bourus.
Oui, ça fait plaisir d'entendre la Côte d'Ivoire aussi. Oui. J'ai emmené mon fils en février dernier parce que je suis une grande accro à l'Afrique. Je vous dis, ce problème est transversal de toute façon. La question des mères solo, c'est trans tout. C'est trans pays, c'est transgénérationnel, c'est un problème. Elle le prend avec le sourire, mais je pense que cette vie doit pas être aussi souriante.
Beaucoup de pudeur. Les femmes se comprennent entre elles sur ce sujet. Il faudrait maintenant que les hommes le comprennent, notamment les décideurs. Merci à vous, Nathalie Bourus. Il faut absolument vous lire. Votre livre se lit vraiment d'une traite, 280 pages, Maman Solo.
Merci à vous, Emmanuel.
Les Oubliés de la République, aux éditions Pygmalion. Et surtout, ça serait bien que les hommes le lisent, ce livre. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast. Demain, on parlera des séries télé comme Infidèle au Sénégal ou des feuilletons en podcast comme Dianke ou comment la fiction déverrouille des sujets de société peu abordés. Appelez-nous si vous êtes accro à ces histoires et si elles permettent de lancer des débats ensuite à la maison. Vous pouvez toujours nous joindre au 33 7 64 45 51 41. Dans quelques secondes, c'est le journal sur RFI en direct.